RTL Info.
Jean-Paul Picci.
Bonjour, le Val de Travers ne devrait pas être submergé de touristes cet été. C'est du moins l'avis du conseiller communal Frédéric Méry, malgré la vague de visiteurs enregistrée le week-end dernier au Creux du Vent. L'objectif reste d'ailleurs de convaincre les curieux de visiter le reste du vallon. Feu vert pour l'application de traçage de contacts Suisse Covid. La base légale qui accompagne sa mise en place a été approuvée ce matin par la Commission de la Santé publique du Conseil des États. Elle a toutefois demandé encore des clarifications au gouvernement. Soleil radieux, ciel bleu, difficile de faire mieux. Il fera entre 18 et 22 degrés au meilleur de la journée. Les pics d'affluence au Creux du Vent ne devraient plus être si impressionnants. Jeudi passé, lors du congé de l'Ascension, le site naturel a vu des milliers de visiteurs s'amasser sur les bords de la falaise. Conséquence directe, la route du Solia a été fermée et il était déconseillé de venir en voiture à Noiraigue car les parkings étaient pleins. Le week-end de la Pentecôte arrive tout comme l'été. Avec la crise sanitaire et l'appel à passer ses vacances en Suisse, faut-il s'attendre à une vague de touristes en juillet et août dans le Val de Travers? La réponse de Frédéric Méry, conseil communal en charge du tourisme.
Alors le week-end dernier et surtout jeudi et vendredi, on était dans un cadre tout à fait particulier, c'est-à-dire d'une part il faisait très beau, c'était les premiers jours du déconfinement, les infrastructures de loisirs en Suisse sont encore fermées, donc tout ça mis ensemble font que les gens avaient envie de sortir et de se tourner vers des lieux accessibles et le Creux du Vent en est un. Donc c'est pas un cocktail qu'on risque de retrouver tout au long de l'été. On s'attend évidemment à ce qu'il y ait encore un fort afflux de visiteurs, mais là on était vraiment dans un contexte tout à fait hors du commun. L'an dernier, on avait fait des pointages pour voir les jours de forte affluence, combien de véhicules stationnaient à Noiraigue, pour qu'on puisse aussi dimensionner nos parkings en conséquence. Nos parkings ont une capacité de 200 places qui, compte tenu des relevés faits l'année dernière, doivent suffire la plupart du temps. On a relevé l'an dernier quelques jours de forte affluence, mais ces jours-là, on atteignait 250 véhicules. Donc on voit bien que là, avec les 600 véhicules qui ont été comptabilisés le week-end dernier, qu'on était vraiment dans un cadre tout à fait exceptionnel.
Donc vous avez l'impression que cet été, on n'aura jamais de tels chiffres à Noiraigue?
C'est difficile de le dire. On est vraiment dans une période sur laquelle on n'a aucune certitude et aucune expérience préalable. Comment est-ce que vont se comporter les touristes? On ne le sait pas encore. Par contre, on a pu voir qu'avec ce qui a été mis en place, on a réussi à faire face à cet afflux, à des mesures plus strictes qui pourraient être prises encore si ça se renouvelle, c'est-à-dire qu'on peut fermer aussi l'accès à Noiraigue même dès qu'on l'estime nécessaire. Ensuite, il faut aussi savoir, quand on connaît Noiraigue, que la capacité même d'accueil des automobiles dans le village de Noiraigue, elle est fortement limitée. Il n'y a pas des terrains disponibles à n'en plus finir, donc nous, on devra aussi composer avec cette contraintes géographiques et puis, si nécessaire, fermer effectivement l'accès à Noiraigue. Mais encore une fois, voilà, même dans le cadre tout à fait exceptionnel de jeudi, la situation a pu être gérée. Elle était certes désagréable pour les habitants eux-mêmes, et puis ça, on comprend leur agacement, mais on voit quand même qu'on a réussi à gérer ça. Puis on a vu que sur les jours suivants, les conditions n'étaient plus les mêmes que jeudi, et puis on a retrouvé des afflux de visiteurs qui étaient beaucoup plus acceptables.
Du côté de la promotion touristique du Val de Travers, le travail se poursuit malgré la crise. Odile Roulet, responsable de la communication chez Goût et Région, l'un des organes de promotion du vallon, nous explique la stratégie mise en place.
Pour nous, le défi, c'est de convaincre les gens de rester au Val de Travers, de rester plus longtemps au Val de Travers, parce qu'il n'y a pas que le Creux du Vent. Et puis, en fait, de les informer de toute la diversité des activités et de tous les itinéraires qui existent dans la région.
C'est un défi pour cette année en particulier parce qu'on recommande de rester en Suisse, ou bien c'est un défi que vous avez chaque année?
Alors c'est un défi qu'on a chaque année. C'est clair que le Creux du Vent, les Gorges de la Reuse ont une grande notoriété. Nous, chaque année, on doit faire ce travail d'information à tous les niveaux, au niveau de l'Office de Tourisme, au niveau des prestataires, des acteurs touristiques, pour vraiment mettre en avant toute cette diversité.
Comment on fait? Parce que le Val de Travers, c'est une très petite région. Quand on voit des destinations comme le Valais, comme les Grisons, comme le Tessin, comment est-ce qu'on attire les gens dans le Val de Travers?
Déjà, vous l'avez dit, le Val de Travers, c'est une petite destination, mais ses prestataires sont très unis. On est regroupés au sein d'une association qui s'appelle Destination Val de Travers. On travaille aussi en collaboration avec des tour opérateurs, en fait, qui mettent en avant le Val de Travers et puis toute sa diversité, qui encouragent les Suisses à passer des vacances au Val de Travers, où on reste au Val de Travers et puis chaque jour on fait une activité différente. Ou alors, ça peut être aussi des vacances itinérantes, par exemple à vélo le long des crêtes du Jura.
Un dossier réalisé par Stéphanie Wenker. Selon Goût et Région, les trois quarts des touristes accueillis ces dernières années au Val de Travers viennent de Suisse allemande. Cette affaire qui agite le Jura à présent. Ces derniers jours, des malfrats sont venus ouvrir deux fois de suite les portes du grand parc de cerfs et de biches à Bressaucourt en Ajoie. La dernière fois, il y a 10 jours, 52 bêtes se sont échappées dans les bois environnants. La plupart sont revenues, mais pas toutes. Un souci auquel l'éleveur ne s'attendait pas. Jérémy Pignard l'a rencontré.
François Gerber est encore échaudé par ces incivilités. Le ou les malfaiteurs ont à chaque fois agi de nuit, du 8 au 9 mai, puis pile une semaine plus tard, du 15 au 16. Un geste prémédité, bien préparé au vu des moyens utilisés, selon l'éleveur.
La première fois, c'est deux portes d'entrée qui ont été sectionnées, coupées et puis vandalisées avec couteaux pour couper les sangles et puis meules pour disquer les gonds des portes. Première fois, une cinquantaine de bêtes se sont sauvées du parc. La deuxième fois, il y a eu 52 bêtes qui sont parties dans la nature.
À l'heure actuelle, 9 de ces biches, cerfs ou daims ne sont toujours pas revenus et se promènent encore dans la forêt. François Gerber a averti la police qui effectue désormais des rondes occasionnelles. Il dit n'avoir jamais reçu de menaces et se demande bien qui peut lui en vouloir à ce point.
Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être quelqu'un que je connais ou bien quelqu'un qui vient de loin ou de la jalousie ou bien voilà, du vandalisme anti-animaux dans le parc, quoi. On peut pas savoir, on n'a aucune piste, on n'a rien du tout. Jusque ça a été jour pour jour, une semaine près, ouvert deux fois.
Pas plus de réponse du côté de la police qui n'exclut pour le moment aucune piste. Aujourd'hui, François Gerber n'a pas encore subi de pertes financières, mais il réfléchit à investir dans un système de sécurité, un combat coûteux qui n'était pas au programme.
Des frais en plus et puis on n'est déjà pas beaucoup de producteurs, alors s'il faut déjà se battre au bout de 3 ans que j'ai fait mon parc, ça viendra compliqué. Ouais.
Le Jura compte 2 autres éleveurs de cervidés à Corban et Aubois, mais ils n'ont encore jamais été victimes de telles infractions.
Un homme accompagné de sa femme et de ses 3 enfants a roulé à contresens hier soir, peu avant minuit, sur l'autoroute A1 entre Estavayer-le-Lac et Yverdon. Sa voiture a pu être interceptée et aucun accident ni blessé n'ont été déplorés. C'est ce qu'a indiqué ce matin la police cantonale. Le secteur horloger a été touché de plein fouet par les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Les exportations de montres ont essuyé une chute vertigineuse en avril par rapport au mois précédent. D'après les données de la Fédération horlogère et de l'Administration fédérale des douanes publiées ce matin, les exportations sont en baisse de 81,3% par rapport au mois de mars. Un mois de mars qui affichait déjà un fort repli. Tous les groupes ont essuyé des reculs en avril entre 75 et 90%. L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux vit aussi des heures graves. Les commandes se sont effondrées et les 3/4 des entreprises de la branche anticipent des problèmes de rentabilité pour l'exercice en cours. Cette industrie, fortement axée sur l'exportation, sera pleinement impactée par la crise du coronavirus seulement au cours des mois à venir. Suisse même en appelle à de meilleures conditions cadres. Le secteur hébergement et restauration fait aussi les frais de la pandémie. 11 000 places vacantes ont été rayées dans les 3 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier. La base légale qui permet de déployer l'application de traçage Suisse Covid convainc les sénateurs. La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États a approuvé le projet du gouvernement ce matin. Les élus ont tout de même demandé quelques assurances supplémentaires. Mais dans l'ensemble, le texte apporte des garanties suffisantes, notamment pour ce qui est du caractère facultatif de l'utilisation de cette application. Marina Carobbio, conseillère aux États socialistes tessinoises et membre de la commission.
On a discuté aussi avec les responsables et on a clarifié ces questions. Et pour cette raison, je pense que la commission a pu voter à l'unanimité ce projet. Elle a mis des spécifications sur l'aide du code source et l'accès au public. Mais je pense que maintenant, on a vraiment une bonne base légale. Même s'il y a des questions qui sont encore ouvertes et on a demandé au Conseil fédéral de les examiner.
Quelles sont les questions que vous souhaiteriez encore clarifier avec le Conseil fédéral?
C'est la question des indemnités pour perte de gain aux personnes qui se mettent volontairement en quarantaine après avoir averti et en utilisant cette application. Ils ont un risque d'être infectés ou d'être porteurs d'une infection, donc il est explicable qu'ils vont en quarantaine, c'est volontaire, mais là il faut clarifier la question des indemnités de perte de gain.
Vous-même, vous serez prête à télécharger l'application quand elle sera ouverte à tout le monde?
Oui, je serai prête à l'utiliser.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Hélène Yost. Le Parlement doit encore donner son feu vert. L'application Suisse Covid devrait être opérationnelle au plus tard à la fin du mois de juin. L'UDC élira son nouveau président le 22 août à Brugg, dans le canton d'Argovie. Jusqu'à 700 personnes sont attendues, selon la RTS, pour ce qui devrait être la première assemblée des délégués à avoir de nouveaux lieux complètement sur site et pas via Internet. L'UDC part du principe que d'ici cette date, les mesures d'interdiction de réunion seront levées. Enfin, dans l'actualité étrangère, les frontières au sein de l'Europe doivent être rouvertes le plus vite possible. C'est l'appel lancé aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale française et son homologue allemand. La France et l'Allemagne doivent œuvrer en faveur du rétablissement immédiat de la libre circulation au sein de l'espace Schengen lorsque les conditions sont remplies, indiquent Richard Ferrand et Wolfgang Schäuble dans une déclaration commune. Pour l'instant, une réouverture est envisagée à partir de la mi-juin. Bon appétit, bel après-midi.
Midi 26 sur RTL. Du soleil toute la semaine avec la bise qui devrait quand même affronter un petit peu cet anticyclone qui nous protège. Une bise qui maintient les températures peut-être plus fraîches qu'elle ne serait si elle était absente, mais peut-être que le ciel serait plus chargé. Donc remercions-la. Du soleil et des températures comprises entre 18 et 22 degrés jusqu'à dimanche au moins. C'est pas beau ça ?